Chapitre 5. Confrontation. Qu'est-ce que le vif? Selon certains, ce serait une perversion, une faiblesse coupable et contre nature de l'esprit par laquelle des hommes acquièrent la connaissance de la vie et de la langue des bêtes, et finissent par ne guère valoir mieux qu'elles. Pourtant, l'étude que j'ai menée de cette magie et de ses usagers m'a conduit à une conclusion différente. Le vif semble être un lien mental qui s'établit en général avec un seul animal et qui permet la compréhension de ses pensées et de ses émotions, mais il ne donne pas, comme d'aucuns l'ont prétendu, le talent de parler la langue des oiseaux ni des bêtes. La personne douée du vif possède certes une conscience aiguë du vaste spectre du vivant, y compris les humains, et même certains arbres parmi les plus puissants et les plus anciens. Mais elle est incapable d'engager la conversation avec un animal de rencontre. Elle peut percevoir la présence proche de la bête, et peut-être sentir si elle est méfiante, hostile ou curieuse. Cependant, son don ne lui permet pas de commander aux animaux de la terre, ni aux oiseaux du ciel, comme voudraient nous le faire croire certaines fables fantaisistes. On peut considérer le vif comme l'acceptation par la personne de sa propre nature animale, d'où la conscience de l'élément d'humanité que chaque animal porte en lui aussi. La légendaire loyauté qu'un animal ressent pour son compagnon de vif n'a rien à voir avec celle qu'une bête éprouve pour son maître. Elle est plutôt le reflet exact de la fidélité que l'individu doué du vif a juré à son animal. Je dormis mal. Et pas seulement parce que j'avais perdu l'habitude de dormir de nuit. Ce que les ménestrels m'avaient appris sur les forgisés m'avait effrayé. Les musiciens étaient montés dans la soupente pour s'allonger sur la paille, mais j'étais resté en bas, et je m'étais approprié un coin d'où, le dos au mur, je pouvais surveiller la porte. J'éprouvais une étrange impression à me trouver dans une grange de nuit. C'était un bâtiment solide, en pierre du fleuve, en mortier et en bois, qui abritait une vache et une poignée de poulets, en plus des chevaux de louage et des bêtes des clients de l'auberge. Les bruits et les odeurs familiers de la paille et des animaux suscitaient en moi de vifs souvenirs des écuries de Burick, qui me manquèrent soudain, comme jamais je n'avais eu la nostalgie de ma chambre au château. Je me demandais si Burick allait bien, et s'il était au courant des sacrifices de patience. Je songeais à l'amour qui avait existé entre eux et qui s'était échoué sur le sens du devoir de Burick. Patience avait alors épousé mon père, l'homme même à qui Burick avait donné sa loyauté. Avait-il jamais pensé la retrouver, essayer de la reprendre? Non. La réponse fut immédiate et sans équivoque. Le spectre de chevalerie se dresserait toujours entre eux. Et le mien aussi, à présent. De là, mes réflexions me menèrent naturellement à Molly. Elle avait pris la même décision en ce qui me concernait que Burick pour patience et lui. Elle m'avait dit que ma fidélité excessive à mon roi nous empêcherait toujours de nous appartenir l'un à l'autre, et elle avait trouvé quelqu'un à aimer autant que j'aimais vérité. À mes yeux, le seul point positif de son choix était qu'il lui avait sauvé la vie. Elle m'avait quitté. Elle n'était pas à Castelserre pour assister à ma chute et à mon humiliation. Je tendis vaguement mon art vers elle, puis me gourmandai brusquement. Avais-je vraiment envie de la voir telle qu'elle était sans doute cette nuit, endormie dans les bras d'un autre? À cette évocation, je ressentis une douleur presque physique dans la poitrine. Je n'avais pas le droit de jouer les indiscrets avec le bonheur qu'elle s'était construit. Pourtant, comme je m'assoupissais, je pensais encore à elle avec une terrible mélancolie. Un sort pervers me fit voir Burick dans un rêve très vivant, mais incompréhensible. J'étais assis en face de lui, il était à une table, près d'une cheminée, et il réparait des harnais comme souvent le soir. Mais une chope de thé avait remplacé son gobelet d'eau-de-vie, et le cuir sur lequel il travaillait avait la forme d'une chaussure basse beaucoup trop petite pour lui. Il poussa la laine dans le cuir tendre. Elle s'enfonça trop facilement et lui piqua la main. Il jura en voyant le sang perler, puis il leva soudain les yeux et me demanda gauchement pardon d'employer un tel langage en ma présence. Je m'éveillais désorienté et troublé. Burick m'avait souvent fabriqué des chaussures quand j'étais petit, mais je n'avais pas souvenir qu'il se fût jamais excusé d'avoir juré devant moi, bien qu'il m'eût souvent donné sur les doigts si j'avais le front de sacré en sa présence. Ridicule. Je chassais le rêve de mon esprit, mais le sommeil m'avait abandonné. Je me servis discrètement du vif et ne perçus que les rêves confus des animaux endormis autour de moi. Tous étaient sereins, sauf moi. Des images d'imbres vinrent me harceler. Par bien des côtés, c'était un vieillard. De son vivant, le roi subtil avait subvenu à tous ses besoins afin que son assassin vécût en sécurité, et Imbre s'aventurait rarement hors de ses appartements secrets, sauf pour effectuer son travail discret. Mais à présent, il était livré à lui-même, occupé à elle sait quoi et traqué par les troupes de royales. En vain, je me massais les tempes. Il ne servait à rien de m'inquiéter, mais je n'arrivais pas à m'en empêcher. Quatre bruissements de pas suivis d'un choc léger. Quelqu'un avait descendu l'échelle et sauté le dernier barreau, probablement une des femmes qui se rendaient aux latrines à l'extérieur. Mais un instant plus tard, Miel chuchota. « Cobb ?»« Qu'y a-t-il » répondis-je sans enthousiasme. Elle se tourna dans ma direction, et je l'entendis s'approcher de moi dans l'obscurité. Le temps passé avec mon loup m'avait affiné les sens, et grâce au léger clair de lune qui filtrait par les volets mal joints, je distinguais sa silhouette dans le noir. « Ici, » fis-je, en la voyant indécise, et ma voix toute proche la fit sursauter. Elle se dirigea vers mon coin à tâtons, puis, hésitante, elle s'assit dans la paille près de moi. « J'ai peur de me rendormir, » dit-elle. « Je fais des cauchemars. »« Je sais ce que c'est, » répondis-je, surpris de me sentir si compatissant. « On y redégringole dès qu'on ferme les yeux. »«
C'est ça. »
Elle se tut en attendant que je poursuive, mais je n'avais rien à ajouter, et je gardais le silence.
« Quel genre de cauchemar faites-vous ? »
me demanda-t-elle à mi-voix. « Du genre désagréable, » répliquai-je sèchement. Je ne souhaitais pas les faire remonter à la surface en parlant.
« Moi, je rêve que je suis pourchassé par des forgisés, mais j'ai les jambes molles et je ne peux pas courir. J'ai beau faire, ils se rapprochent de plus en plus.
Fis-je. Cela valait mieux que de se voir battu sans cesse, nuit après nuit. Par un effort de volonté, je repris la maîtrise de mon imagination.
On se sent bien seul quand on se réveille la nuit, la peur au cœur. Je crois qu'elle veut s'accoupler avec toi. Ils t'accepteront si facilement dans leur meute.
Quoi ? M'exclamai-je, saisi. Mais ce fut Miel qui répondit au lieu d'œil de nuit.
J'ai dit, on se sent bien seul quand on se réveille la nuit, la peur au cœur. On cherche un moyen de se rassurer, de se sentir protégé.
Que je sache, rien ne peut s'interposer entre une personne et les rêves qui lui viennent, répliquai-je d'un ton guindé. J'avais soudain envie qu'elle me laisse tranquille.
Si, un peu de douceur parfois,
dit-elle à mi-voix. Elle posa sa main sur la mienne, que je retirai par pur réflexe.
« Seriez-vous farouche, apprenti ? »
demanda-t-elle d'un ton de feinte timidité. « J'ai perdu quelqu'un qui m'était cher, » répondis-je avec brutalité. « Je n'ai nul désir de remplacer cette personne. »
« J'ai compris. »
Elle se leva brusquement en époustant ses jupes. « Eh bien, je m'excuse de vous avoir dérangé. » Mais à sa voix, je la sentais plus insultée que repentante. Elle repartit à tâtons vers l'échelle. Je l'avais vexée, je le savais bien, mais je n'y pouvais rien. Elle escalada lentement les barreaux, comme si elle espérait que j'allais la rappeler. Je n'en fis rien. Je regrettais d'avoir mis les pieds dans ce bourg.
« Nous sommes deux dans le même cas. La chasse est mauvaise. Si près de tant d'hommes, tu vas y rester longtemps. »
« Je vais devoir les accompagner quelques jours, malheureusement. Au moins jusqu'à la prochaine ville. »
Tu ne veux pas t'accoupler avec elle, elle n'est pas de notre meute, pourquoi dois-tu aller avec eux ?
Je n'essayais pas de lui expliquer la situation avec des mots, je ne pus que lui transmettre un sentiment d'obligation, mais Il ne comprit pas en quoi ma fidélité pour vérité m'imposait d'aider ces voyageurs. Je le devais parce que c'étaient les sujets de mon roi. À mes propres yeux, le rapport était si ténu que c'en était ridicule, et pourtant, il existait bel et bien. Je les accompagnerai jusqu'à la bourgade suivante. Je m'assoupis, mais je dormis mal, comme si ma conversation avec Miel avait ouvert la porte à mes cauchemars. À peine avais-je glissé dans le sommeil que j'eus le sentiment d'être observé. Je me tapis sur le sol de ma cellule et me tins sans bouger en priant pour qu'on ne me vît pas. Je fermais fort les paupières, comme un enfant qui se croit invisible parce qu'il ne voit rien. Mais les yeux qui me cherchaient possédaient un regard que je percevais. Guillot était si proche que j'avais l'impression de le sentir palper la couverture sous laquelle je m'étais caché. La terreur que j'éprouvais était si intense qu'elle m'étouffait. J'étais incapable de respirer, de faire le moindre geste. Affolé, je m'enfuis de moi-même, obliquement, et me faufilais dans la peur d'un autre, dans le cauchemar d'un autre. J'étais accroupi derrière un baril de poisson en saumure de la boutique du Vieux Crochet. Au dehors, les flammes et hurlements des prisonniers et des mourants transperçaient la nuit. Il fallait que je m'enfuie, je le savais. Les pirates rouges n'allaient pas manquer de mettre à sac et d'incendier le magasin. Ce n'était pas une bonne cachette. Mais nulle part, il n'y avait de bonne cachette. Je n'avais que 11 ans, et mes jambes tremblaient tant que je ne pensais pas pouvoir me lever, et encore moins courir. Maître Crochet était elle savait où. Au premier cri, il avait attrapé sa vieille épée et s'était précipité à la porte. « Surveille la boutique, Chad !» avait-il jeté par-dessus son épaule, comme s'il allait simplement rendre visite à son ami et voisin le boulanger. Tout d'abord, je lui avais obéi avec plaisir. Le cœur du tumulte se trouvait tout en bas de la ville, près de la baie, et les chopes m'avaient paru offrir un abri solide. Mais cela se passait 1 heure plus tôt. À présent, le vent qui soufflait du port transportait l'odeur de la fumée, et ce n'était plus la nuit noire, mais un effrayant crépuscule de feu. Les flammes et les cris s'approchaient, et Maître Crochet n'était pas revenu. « Sors de là !» dis-je au garçon dans lequel je me trouvais. « Sors de là, sauve-toi, cours le plus vite et le plus loin possible, va te mettre à l'abri !» Il ne m'entendit pas. Je me dirigeai en rampant vers la porte grande ouverte, telle que l'avait laissée Maître Crochet, et jetai un coup d'œil au dehors. Un homme passa devant moi en courant dans la rue, et je reculai précipitamment. Mais c'était sans doute un habitant de la ville et non un pirate, car il courait sans regarder derrière lui, uniquement préoccupé de s'éloigner autant qu'il le pouvait. La bouche sèche, je me forçais à me relever en m'accrochant au chambranle, puis je contemplais le bourg et le port en contrebas. La moitié de la ville flambait. L'air doux de la nuit d'été s'épaississait de cendres et de fumée, porté par les courants chauds qui montaient des flammes. Des navires brûlaient dans le port. À la lumière des incendies, je voyais des silhouettes courir de ci, de là, pour échapper aux pirates, qui déambulaient dans la ville, presque sans rencontrer de résistance. Quelqu'un passa le coin de la rue à hauteur de la boutique du potier. L'homme portait une lanterne et se déplaçait avec tant de nonchalance que j'en ressentis un soudain soulagement. S'il était si calme, c'était sûrement que l'issue des combats avait changé. Je me levai à demi pour aussitôt m'accroupir à nouveau, en le voyant, d'un geste allègre, envoyer sa lanterne se fracasser contre la façade de l'échoppe. L'huile s'enflamma et le feu courut gaiement sur le bois sec comme de l'amadou. Je reculai devant l'éclat des flammes bondissantes et je compris brutalement que ma cachette n'offrait aucune sécurité, que mon seul espoir résidait dans la fuite et que j'aurais dû me sauver dès que l'alerte avait été donnée. J'en tirai une petite mesure de courage qui me permit de me dresser d'un bond, de me ruer hors de la boutique et de tourner dans la rue. L'espace d'un instant, j'eus conscience de moi-même en tant que Fitz. Je ne pense pas que l'enfant percevait ma présence. Ce n'était plus moi qui artisais, mais lui qui se tendait vers moi grâce à un sens rudimentaire de l'art. Incapable de dominer son corps, j'étais prisonnier de son expérience. J'étais présent en lui. J'entendais ses pensées et je partageais ses perceptions, tout comme autrefois Vérité m'accompagnait par l'art. Mais je n'eus pas le temps d'examiner la façon dont je m'y prenais, ni pourquoi je m'étais si brusquement adjoint à ce jeune inconnu, car, alors que Chad se ruait vers des ombres protectrices, une main rude le saisit au collet. Une brève seconde, il resta paralysé de terreur, et levant les yeux, Nous vîmes le visage barbu et souriant du pirate qui nous avait attrapés. Un autre pirate se trouvait à ses côtés, un rictus mauvais aux lèvres. Toute force abandonna Shad, impuissant. Il regarda le poignard qui s'approchait, le reflet éclatant qui glissa sur sa lame alors qu'elle se dirigeait vers son visage. Je partageai un instant la douleur brûlante et glacée du métal qui m'ouvrait la gorge, la certitude terrifiante, lorsque le sang se mit à ruisseler sur ma poitrine, que tout était fini, qu'il était déjà trop tard. J'étais mort. Puis, comme le pirate laissait Shad s'écrouler sur le pavage poussiéreux, ma conscience se libéra de lui. Mais je restais là, désincarné, et je perçus pendant un atroce instant les pensées du pirate. J'entendis les accents gutturaux de son compagnon qui poussa du bout de la botte le corps de l'enfant, et je compris qu'il reprochait au tueur d'avoir gaspillé une victime qui aurait pu finir forgisée. L'autre eut un grognement de dédain et répliqua que le garçon était trop jeune et n'avait pas assez vécu pour être digne du temps du maître. Je compris aussi, dans un tournoiement d'émotions qui me laissa au bord de la nausée, que le tueur avait désiré deux résultats. Se montrer miséricordieux envers un enfant et savourer le plaisir d'abattre personnellement une victime. J'avais regardé dans le cœur de l'ennemi, mais je ne le comprenais toujours pas. Je longeai la rue à leur suite, sans corps et sans substance. Un sentiment d'urgence m'avait saisi un instant auparavant, mais je n'arrivais pas à le retrouver. Roulant comme la brume, j'assistais à la chute et au sac de Bourg de Malbourbe, dans le duché de Béarn. De temps en temps, j'étais attiré vers l'un ou l'autre des habitants pour être témoin d'un combat, d'une mort, de l'infime victoire d'une fuite. Encore aujourd'hui, quand je ferme les yeux, je retrouve cette nuit. Je me rappelle une dizaine d'instants effroyables d'existence brièvement partagés. Je parvins pour finir à un homme, une grande épée à la main, devant sa maison en flammes. Il tenait en respect trois pirates, tandis que derrière lui, son épouse et sa fille s'évertuaient à soulever une poutre embrasée pour libérer son fils et pouvoir s'enfuir ensemble. Aucun ne voulait abandonner les autres. Pourtant, je sentais l'homme épuisé. Trop affaibli par la perte de sang pour brandir son arme, encore moins la manier. Je sentis aussi que les pirates s'amusaient avec lui, qu'ils l'excitaient pour le fatiguer afin de pouvoir capturer et forgiser toute la famille. Je percevais le froid sournois de la mort qui s'insinuait en l'homme. Un instant, son menton retomba sur sa poitrine. Soudain, l'homme acculé releva la tête, et une lueur curieusement familière apparut dans son regard. Il prit son épée à deux mains, et poussant un rugissement, il bondit sur ses tourmenteurs. Deux d'entre eux tombèrent sous son assaut et moururent, la stupéfaction peinte sur leurs traits. Le troisième bloqua son cou de sa lame. Mais il ne pouvait résister à sa fureur. Le sang dégouttait du coude de l'homme et scintillait sur sa poitrine, mais son épée sonnait comme une cloche contre celle du pirate. Il fracassa sa garde à courageur, puis, léger comme une plume, il traça une ligne rouge en travers de la gorge de l'assaillant. Comme le pirate s'effondrait, l'homme se retourna et bondit vivement aux côtés de son épouse. Il saisit la poutre à plein bras sans se soucier des flammes et il l'ôta du corps de son fils. Une dernière fois, son regard croisa celui de sa femme. « Sauve-toi » ordonna-t-il. « Prends les enfants et sauve-toi » Et il s'écroula au milieu de la rue. Il était mort. Tandis que, les traits de pierre, la femme s'emparait de la main de ses enfants et s'enfuyait avec eux, je sentis un spectre s'élever du corps de l'homme. « C'est moi !» me dis-je. Puis je compris aussitôt que ce n'était pas vrai. Il perçut ma présence et tourna vers moi un visage qui était le double du mien, ou qu'il l'avait été quand il avait eu mon âge. J'eus un choc en songeant que c'était ainsi que Vérité se voyait encore. « Toi ici !» Il secoua la tête d'un air de reproche. « C'est dangereux, mon garçon. Même moi, je suis fou de m'y risquer. Mais que pouvons-nous faire quand il nous appelle ?» Je restai muet, et il me dévisagea. « Depuis quand as-tu la force et le talent de voyager par l'art ?» Je me taisais toujours. Je n'avais pas de réponse. Pas de pensée propre. J'avais la sensation d'être un drap mouillé qui battait au vent de la nuit, sans plus de substance qu'une feuille dans la brise.
Fitz, c'est périlleux pour nous deux. Retourne-t'en, vite.
Prononcer le nom d'un homme est-il vraiment un acte magique? Les vieilles traditions l'affirment. En tout cas, je me remémorerai soudain qui j'étais, et je sus que je n'avais rien à faire là. Mais j'ignorais comment j'y étais venu, et plus encore comment regagner mon corps. J'adressai un regard éperdu à Vérité, incapable même de lui demander de l'aide. Il comprit. Sa main spectrale s'avança vers moi, et je sentis une poussée, comme s'il avait appuyé de la paume sur mon front. Ma tête heurta le mur de la grange, et sous l'impact, une gerbe d'étincelles naquit devant mes yeux. J'étais revenu à l'auberge de la Balance. Autour de moi, ce n'était qu'obscurité paisible, animaux endormis et paille picotante. Lentement, je me laissais tomber sur le flanc pendant que des vagues de vertige et de nausées déferlaient sur moi. La faiblesse qui me prenait souvent après que j'avais réussi à utiliser l'art monta en moi comme une lame de fond. J'ouvris la bouche pour appeler au secours, mais seul un croassement inarticulé s'en échappa. Je fermai les yeux et perdis connaissance. Je m'éveillai avant l'aube. Je me dirigeai à quatre pattes vers mon paquetage, y pris ce dont j'avais besoin, puis gagnai en titubant la porte de derrière de l'auberge, où j'implorai littéralement la cuisinière de me donner une chope d'eau bouillante. D'un air stupéfait, elle me regarda émietter des copeaux d'écorce elfique dans le récipient.
« C'est une saleté, ce truc, vous savez !» me dit-elle, avant de prendre une expression effarée, en me voyant avaler d'un trait la décoction amère et brûlante. « On refile ça aux esclaves, à Terrilleville, mélangé à la nourriture, pour les faire tenir debout. Ça leur donne de la force, mais ça leur enlève l'envie de se bagarrer et même de vivre, à ce qu'il paraît. »
Je l'entendais à peine. J'attendais que la tisane fasse effet. J'avais prélevé l'écorce sur de jeunes arbres, et je craignais qu'elle manque d'efficacité. Je ne me trompais pas. Du temps passa avant que je sente la chaleur revigorante grandir en moi, affermir mes mains tremblantes et clarifier ma vue. Je quittai les marches de la porte pour remercier la cuisinière et lui rendre la chope.
« Ce n'est pas une bonne habitude à prendre pour un jeune homme comme vous !»
me gourmanda-t-elle avant de retourner à ses fourneaux. J'allais déambuler dans les rues alors que l'aube se levait sur les collines. Je m'attendais à moitié à voir des façades, de boutiques calcinées, des chaumières en ruine et des forgisées aux yeux vides errant entre les maisons. Mais le cauchemar de l'art fut rapidement érodé par la matinée d'été et le vent du fleuve. De jour, le mauvais état du bourg était plus apparent. Il me semblait apercevoir davantage de mendiants que nous n'en avions à Bourg-de-Castelserre, mais peut-être était-ce normal pour une agglomération fluviale. Je songeais brièvement à ce qui m'était arrivé durant la nuit, puis, avec un frisson d'angoisse, je chassais mes souvenirs. J'ignorais comment je m'y étais pris, et, de toute façon, cela ne se reproduirait sans doute plus jamais. Je me sentais ragaillardi de savoir Vérité vivant, même si la témérité avec laquelle il dépensait son art me glaçait d'effroi. Je me demandais où il se trouvait ce matin, et si, comme moi, il entamait la journée avec dans la bouche l'amertume de l'écorce elfique. Si j'avais appris à maîtriser l'art, je n'aurais pas eu à me poser la question, et cette pensée ne me remonta pas le moral. Quand je retournais à l'auberge, les ménestrels étaient déjà devant le petit déjeuner. Je me joignis à eux, et sans prendre de gants, Josh me dit avoir craint que je ne fusse parti sans eux. Miel ne pit pas mot, mais, à plusieurs reprises, je surpris le regard appréciateur de Fifre posé sur moi. Il était encore tôt quand nous nous mîmes en route, et, si nous ne marchions pas comme des soldats, Josh nous imposait tout de même un train respectable. J'avais cru qu'il faudrait le mener par la main, mais son bâton lui servait de guide. Quelquefois, cependant, il avançait, la main sur l'épaule de Miel ou de Fifre, davantage par esprit de convivialité, toutefois, que par nécessité. Et il chassait l'ennui du voyage en dissertant, à l'attention de Fifre surtout, sur l'histoire de la région. Et je m'étonnais de son profond savoir. Nous fîmes une brève halte lorsque le soleil fut haut et ils partagèrent avec moi leur simple repas. J'étais gêné d'accepter, bien que je ne pusse inventer aucun prétexte pour aller chasser avec le loup. Une fois le bourg loin derrière nous, je l'avais senti qui nous suivait. J'y puisais un certain réconfort, mais j'aurais préféré que nous fussions seuls à nous déplacer de conserve. Ce jour-là, nous croisâmes plusieurs groupes de voyageurs montés sur des chevaux ou des mulets. Par des trouées dans la végétation, nous apercevions de temps en temps des bateaux qui remontaient, non sans mal, le courant du fleuve. La matinée avançant, des charrettes et des chariots bien gardés nous doublèrent. Chaque fois, Josh demanda s'il pouvait nous offrir une place. Deux conducteurs refusèrent poliment, les autres ne répondirent pas. Ils forçaient l'allure, et un des groupes était accompagné d'hommes revêches que je jugeais être des gardes engagés pour l'occasion. Sans cesser de cheminer, nous passâmes l'après-midi à écouter « Le sacrifice de feu croisé », long poème sur le clan de la reine Vision dont les membres avaient donné leur vie afin que leur souveraine pût remporter une bataille cruciale. Je l'avais déjà entendu plusieurs fois à Castelserre, mais à la fin de la journée, j'en avais eu les oreilles rebattues plus de 40 fois, tant Josh mettait d'infinie méticulosité à ce que Fifre le chanta parfaitement. Toutefois, ces interminables répétitions m'arrangeaient, car elles empêchaient tout bavardage. Malgré notre allure soutenue, le soir nous surprit très loin de la bourgade suivante. Je vis l'inquiétude monter chez mes compagnons à mesure que le jour faiblissait, et pour finir, je pris le commandement pour annoncer qu'il faudrait quitter la route au prochain ruisseau et trouver un emplacement où camper. Miel et Fifre se rangèrent derrière Josh et moi, et je les entendis échanger des propos soucieux. Ne pouvant les assurer, comme Œil de Nuit l'avait fait pour moi, qu'il n'y avait pas la plus petite odeur de présence humaine dans les environs, je conduisis le groupe le long du plus proche ruisseau et finis par découvrir une berge abritée, au pied d'un cèdre où nous pouvions passer la nuit. Sous prétexte de satisfaire un besoin naturel, j'allais rejoindre Œil de Nuit afin de lui répéter que tout allait bien. J'en fus récompensé car il avait trouvé un endroit du ruisseau où l'eau tourbillonnante avait miné la berge. Il m'observa attentivement, tandis que, couché sur le ventre, je plongeais lentement les mains dans l'eau, puis fouillais délicatement le rideau d'herbe qui la surplombait. Dès le premier essai, j'attrapais un gros poisson, puis quelques minutes plus tard, un plus petit. Quand je décidais de cesser, il faisait presque nuit noire, mais j'étais en possession de 3 poissons à rapporter au camp, sans compter les 2 que j'avais l'intention, après avoir pesé le pour et le contre, d'abandonner à Œil de Nuit.
« C'est pour ça que les hommes ont reçu des mains, pour pêcher et gratter derrière les oreilles !»
me dit-il avec bonne humeur en s'attaquant à son repas. Il avait déjà avalé tout rond les viscères des miens. « Fais attention aux arêtes, » fis-je.
« Ma mère m'a élevé près d'une frayère de saumon, » rétorqua-t-il. « Les arêtes ne me dérangent pas !»
Pendant qu'il mettait ses poissons en pièces avec un plaisir évident, je regagnais le camp. Les ménestrels avaient allumé un petit feu. Au bruit de mes pas, tous 3 se dressèrent d'un bond, leurs bâtons de marche à la main. « C'est moi, » annonçai-je un peu tard.
« Eda, merci !»
fit Josh en se rasseyant lourdement. Miel me regarda d'un air mauvais.
« Vous vous êtes absenté longtemps ?»
dit Fifre, comme pour s'excuser. Je brandis les poissons que j'avais enfilés par les ouïes sur une baguette de saule. « J'ai trouvé le dîner. C'est du poisson !» ajoutai-je à l'intention de Josh.
« Merveilleux !» répondit-il.
Miel sortit le pain de voyage et un petit sac de sel pendant que j'allais chercher une grosse pierre plate que j'enfonçais dans les braises. J'enveloppai les poissons dans des feuilles et les mis à cuire sur la pierre. Je me mis à saliver en sentant l'odeur qui s'en dégagea peu après, tout en espérant qu'elle n'attirerait pas de forgisée.
« Je monte la garde !»
me rappela Œil de Nuit, et je l'en remerciai. Tandis que je surveillais la cuisson, Fifre, près de moi, récitait tout bas le sacrifice de feu croisé. Sans réfléchir, alors que je retournais le poisson en prenant soin de ne pas l'émietter, je la repris. Clive l'aveugle et Hist le boiteux.
« Je l'avais dit comme il faut, » s'insurgea-t-elle.
« Je regrette, mais non, ma fille. Cobb a raison. » Clive était aveugle de naissance, et Hist avait un pied beau. Pouvez-vous nommer les 5 autres, Cobb?
J'avais l'impression d'entendre Jérepu me faire repasser mes leçons. Je venais de poser le doigt sur une braise, et je le suçais avant de répondre. Brûlé, feu croisé menait, et puis venait encore. Comme lui, chétif de corps, mais droit du cœur et fort de l'âme, ceux dont les noms je déclame. Clive l'aveugle, et Ist le boiteux. Mévin à l'esprit brumeux, rallieur au bec de lièvre, coupe qui n'entendait mi, et tourier, laissé par l'ennemi, pour mort, sans main, ni yeux. Et si croyez pouvoir les mépriser, que je vous dise.
« Eh bien, eh bien !» s'exclama Josh, ravi. « Avez-vous été formé au métier de barde, Cobb, quand vous étiez petit? Vous connaissez le phrasé aussi bien que le texte, encore que vous marquiez un peu trop les pauses. »
« Moi ? Non, mais j'ai toujours eu une excellente mémoire. J'ai du mal à me retenir de sourire devant ces éloges, mais Miel ricana en secouant la tête.
Seriez-vous capable de réciter le poème tout entier ?
Me demanda Josh d'un air de défi. Peut-être ? Biaisai-je. Je m'en savais capable. Burick et Humbre m'avaient l'un comme l'autre exercé à travailler ma mémoire, et j'avais entendu l'œuvre tant de fois aujourd'hui que je ne pouvais plus la chasser de mon esprit.
Eh bien, essayez donc, mais en chantant.
Je n'ai pas une bonne voix.
Si vous savez parler, vous savez chanter. Essayez, faites plaisir à un vieil homme.
Peut-être avais-je l'habitude trop bien ancrée d'obéir au vieillard, à moins que ce ne fût l'expression de Miel qui disait clairement qu'elle ne m'en croyait pas capable. Toujours est-il que je m'éclaircis la gorge et me mis à chanter à mi-voix, jusqu'à ce que Josh me fît signe de monter le ton. Tandis que j'avançais dans le poème, il hochait la tête avec une grimace de temps en temps quand une fausse note m'échappait. J'en avais chanté la moitié lorsque Miel remarqua d'un ton sec. « Le poisson est en train de brûler !» Je m'interrompis et bondis pour pousser avec un bâton la pierre et les paquets de feuilles hors de la braise. La queue des poissons était en effet noire, mais le reste était parfait, ferme et fumant. Nous découpâmes la chair en portions et je mangeai la mienne trop rapidement. Eût-elle été deux fois plus grosse qu'elle ne m'eût pas rassasié. Je dus pourtant m'en satisfaire. Le pain de voyage allait étonnamment bien avec le poisson, et quand nous eûmes fini, Fifre prépara une bouilloire de thé. Nous nous installâmes sur nos couvertures autour du feu.
« Cobb, comment vous débrouillez-vous comme scribe ?»
me demanda soudain Josh. J'eus un geste dépréciateur. Pas aussi bien que je le souhaiterais. Mais je survis. Pas aussi bien qu'il le souhaiterait, répéta Miel à Fifre en un murmure moqueur. Josh fit celui qui n'avait rien entendu.
Vous êtes un peu vieux, mais vous pourriez apprendre à chanter. Votre voix n'est pas si mal. Vous chantez comme un enfant sans savoir que vous possédez la voix grave et la capacité thoracique d'un adulte. Et vous avez une excellente mémoire. Jouez-vous d'un instrument?
Du biniou de mer, mais pas bien.
« Je pourrais vous enseigner à bien en jouer, si vous vous joignez à nous. »«
Père, nous le connaissons à peine !» s'exclama Miel.
« J'aurais pu t'en dire autant quand tu es descendu de la soupente la nuit dernière !»
répondit-il doucement.
« Nous avons bavardé, c'est tout, père !»
Elle me décocha un coup d'œil assassin, comme si elle m'accusait de l'avoir trahi. J'avais l'impression d'avoir un bout de cuir à la place de la langue.
« Je sais !» fit Josh. « Il semble que la cécité m'ait affûté l'ouïe, mais si tu as jugé sans risque de lui parler seul et en pleine nuit, peut-être puis-je juger moi aussi sans risque de lui proposer notre compagnie. Qu'en dites-vous, Cobb ?»
Je secouai lentement la tête, puis tout haut. « Non. Merci quand même. Je vous sais gré de ce que vous m'offrez à moi, un inconnu. Je vous escorterai jusqu'à la prochaine bourgade, et là... je vous souhaiterais bonne chance pour trouver d'autres compagnons de voyage, mais je ne tiens pas à...
Vous avez perdu quelqu'un de cher, je vous comprends. Mais la solitude totale n'est bonne pour personne, fit Josh à mi-voix.
Qui avez-vous perdu? Demanda Fifre, toujours direct. Comment m'expliquer sans laisser la porte ouverte à de nouvelles questions? Mon grand-père. Dis-je enfin. et mon épouse. En prononçant ces mots, j'eus l'impression de retourner un couteau dans une plaie vive. Que leur est-il arrivé? Insista Fifre. Mon grand-père est mort. Ma femme m'a quitté. J'avais répondu laconiquement dans l'espoir qu'elle renoncerait à poursuivre.
Les vieilles gens meurent à leur heure,
fit Josh avec douceur. Elle l'interrompit brusquement.
C'est ça, l'amour que vous avez perdu? Que devez-vous à une femme qui vous a quitté? À moins que vous ne lui ayez donné des motifs de s'en aller?
C'est plutôt que je ne lui en ai pas donné de rester, confessai-je à contre-cœur. S'il vous plaît, je n'ai pas envie d'en parler, pas du tout. Je vous accompagnerai jusqu'à la prochaine ville, et puis je reprendrai mon chemin.
Ma foi, voilà qui est parlé clairement, fit Josh avec un soupir.
Je sentis à son ton que je m'étais montré grossier, et pourtant, je ne regrettais pas mes paroles. Le reste de la soirée se passa sans guère de propos échangés, ce qui me convenait parfaitement. Fifre se proposa pour le premier tour de garde, et Miel prit le second. Je n'élevai pas d'objection, sachant qu'œil de nuit ne s'éloignerait pas de toute la nuit, et que rien ou presque ne lui échappait. À la belle étoile, je dormis mieux que la veille, et je m'éveillai dès que Miel se pencha vers moi. Je m'assis, m'étirai, puis lui fis signe qu'elle pouvait aller se recoucher. Enfin, je me levai, attisai le feu, et m'installai à côté. Miel vint prendre place près de moi.
« Vous ne m'aimez pas, n'est-ce pas ? » demanda-t-elle à mi-voix.
Il n'y avait nulle hargne dans sa question.
« Je ne vous connais pas, »
répondis-je en m'efforçant à la délicatesse.
«
Et vous n'y tenez pas ? » fit-elle. Elle me regarda dans les yeux.
« Mais moi, j'ai envie de vous connaître depuis que je vous ai vu rougir à l'auberge. Rien ne suscite ma curiosité comme un homme qui rougit. J'ai rencontré peu d'hommes qui piquent des phares comme ça, simplement parce qu'une femme les a surpris à la dévisager. »
Sa voix devint basse et doucement rauque lorsqu'elle se pencha pour ajouter.
« Je donnerais beaucoup pour savoir les pensées qui vous ont fait monter le rouge aux joues.
Seulement celle d'avoir été grossier d'ainsi vous regarder. » répondis-je avec franchise. Elle me sourit.
Ce n'est pas ce à quoi je pensais, moi, quand je vous ai rendu votre regard.
Elle s'humecta les lèvres et se rapprocha de moi. Molly me manqua soudain si vivement que j'en eus mal.
Je n'ai pas le cœur à ce petit jeu,
dis-je sans détour. Je me levai. Je vais aller chercher du bois pour le feu.
J'ai compris pourquoi votre femme vous a quitté, je crois,
fit Miel d'un ton acerbe.
Pas le cœur, dites-vous. À mon avis, le problème se situait plus bas chez vous.
Elle se leva à son tour et regagna ses couvertures. Je n'éprouvais que du soulagement à l'avoir renoncé. Je tins parole et allai ramasser du bois. Quand Josh s'éveilla le lendemain matin, la première chose que je lui demandai fut « À quelle distance sommes-nous de la prochaine ville ?»«
Si nous conservons notre allure d'hier, nous devrions y être avant demain midi. »
Je détournai les yeux afin de ne pas voir la déception qui se lisait sur ses traits. Comme nous prenions nos paquetages à l'épaule et nous mettions en route, je songeais avec amertume que je m'étais coupé de personnes que je connaissais et que j'aimais pour éviter précisément la situation que je subissais avec des inconnus. Y avait-il moyen de vivre parmi ses semblables sans se laisser enchaîner par leurs attentes et leurs envies de dépendance? La journée était agréablement chaude. Si j'avais été seul, j'aurais pris plaisir à marcher le long de la route. Dans les bois d'un côté, les oiseaux échangeaient des trilles. De l'autre côté, nous apercevions le fleuve entre les arbres rares et parfois des péniches qui descendaient le courant ou des bateaux qui le remontaient lentement à l'aviron. Nous parlions peu. Et au bout d'un moment, Josh fit réciter le sacrifice de feu croisé à Fifre. Quand elle se trompa, je gardai le silence. Mes pensées se mirent à errer. Tout était tellement plus simple quand je n'avais pas à m'inquiéter du prochain repas ou de la propreté de mes chemises. Et moi qui me croyais si malin dans mes rapports avec les gens, si efficace dans mon métier. Mais à l'époque, j'avais humbre pour établir mes plans et du temps pour préparer mes répliques. Je ne m'en tirais plus aussi bien quand mes ressources se limitaient à mon intelligence et à ce que je pouvais porter sur mon dos. Privé de tout ce sur quoi je me reposais sans même y penser, j'en venais à mettre en doute non seulement mon courage, mais tout ce que j'étais. Assassin, homme liege du roi, guerrier, homme, étais-je encore l'un ou l'autre? J'essayais de revoir l'impétueux jeune homme qui maniait l'aviron à bord du Rurisque, le navire de combat de vérité, qui se jetait sans réfléchir au cœur de la bataille, la hache à la main. Je n'arrivais pas à croire que c'eût pu être moi. À midi, Miel distribua ce qui restait de pain de voyage. Ce n'était guère. Les femmes marchaient en avant et bavardaient à mi-voix tout en mâchant le pain sec et en buvant à leurs outres. Je me risquais à suggérer à Josh de monter le camp plus tôt ce soir, afin de me permettre de chasser ou de pêcher.
« Mais nous n'arriverions alors pas à la prochaine ville demain midi, »
me fit-il remarquer d'un ton grave. « Demain soir, ça m'irait parfaitement, » répondis-je. Il tourna le visage vers moi, peut-être pour mieux m'entendre, mais j'eus l'impression que ses yeux laiteux voyaient au plus profond de moi-même. Leur expression suppliante était dure à supporter. Pourtant, je n'y répondis pas. Quand l'air commença enfin à se rafraîchir, je me mis à chercher un emplacement pour bivouaquer. Œil de Nuit était parti en avant en éclaireur. Je sentis soudain qu'il se hérissait.
« Il y a des hommes ici qui sont à charogne, et la crasse, je les sens, je les vois, mais je ne reçois rien d'autre d'eux. »
L'angoisse que lui inspirait toujours la présence de Forgisé me parvint. Je la partageais. Je savais qu'ils étaient naguère humains et qu'ils possédaient la petite étincelle de vif que détient toute créature vivante. Pour moi, il était extraordinairement étrange de les voir se déplacer, parler, alors que je ne les sentais pas vivants. Pour Œil de Nuit, c'était comme si des pierres se mettaient à marcher et à manger.
Combien? Jeunes, vieux? Plus nombreux que nous et plus grands que toi.
C'était ainsi que le loup percevait la répartition des forces.
Il chasse sur la route, juste après le prochain virage que vous allez passer.
Arrêtons-nous ici, dis-je brusquement. Trois visages se tournèrent vers moi, ébahis.
Trop tard, ils vous ont senti, ils approchent.
Plus le temps d'user de dissimulation, plus le temps de trouver un mensonge plausible. Il y a des forgisés devant nous, au moins deux, sans doute davantage. Ils étaient à l'affût sur la route et ils se dirigent vers nous. Stratégie?
Tenez-vous prêts, leur dis-je. Comment savez-vous tout ça?
Demanda Miel d'un ton de défi.
Sauvons-nous!
Proposa Fifre. D'où je tenais mes renseignements lui était bien égal. Ses yeux écarquillés disaient assez la terreur que lui inspirait cette rencontre. Non, ils nous rattraperaient, et nous serions alors à bout de souffle. Et même si nous arrivions à les distancer, il faudrait repasser par ici demain. Je laissai tomber mon baluchon et l'écartai d'un coup de pied. Il ne contenait rien qui valût de risquer ma vie. Si nous l'emportions, je pourrais le récupérer. Sinon, son sort me serait indifférent. Mais Miel, Fifre et Josh étaient musiciens et leurs instruments étaient dans leur sac. Aucun des trois ne fit mine de décharger les autres de leur fardeau. Et je ne gaspillais pas ma salive à le leur suggérer. Presque instinctivement, les deux femmes allèrent se placer de part et d'autre du vieillard. Tous trois serraient leurs bâtons trop fort. Le mien se nicha dans mes paumes, et je le tins au point d'équilibre, prêt au combat. L'espace d'un instant, je cessai totalement de penser. Mes mains paraissaient savoir ce qu'elles devaient faire.
« Cobb, protégez Miel et Fifre. Ne vous occupez pas de moi. Veillez seulement à ce qu'il ne leur arrive rien !»
ordonna Josh d'un ton farouche. Ces paroles firent une brèche en moi, et la terreur m'envahit soudain. Mon corps perdit son attitude à la fois détendue et assurée, et je ne songeais plus qu'à la souffrance qu'entraînerait pour moi la défaite. La nausée me prit accompagnée de tremblements, et je n'eus plus qu'une envie, m'enfuir, sans me préoccuper davantage des ménestrels.
« Attends, attends !» voulais-je crier au jour. « Je ne suis pas prêt, je ne sais pas si je dois me battre, me sauver ou simplement m'évanouir sur place. »
Mais le temps est implacable.
« Ils arrivent par les taillis !»
me dit Œil de Nuit.
« Deux, rapidement, et un autre moins vite. Je crois qu'il sera pour moi. »
« Sois prudent. » J'entendis des craquements dans les buissons, et je sentis la puanteur des forgisés. Un instant plus tard, Fifre les vit et poussa un cri, et ils se jetèrent hors du bois sur nous. Si ma stratégie consistait à combattre sans reculer, la leur consistait simplement à foncer à l'assaut. Les deux hommes étaient plus grands que moi, et ils avançaient sans hésiter. Leurs vêtements étaient sales, mais en relativement bon état. Ils devaient avoir été forgisés récemment. Tous deux étaient armés d'un gourdin. Je n'eus guère le temps de voir autre chose. La forgisation ne rendait pas ces victimes stupides, ni lentes à réagir. Elles ne sentaient plus les émotions de leurs semblables et ne se rappelaient pas, semble-t-il, les extrémités auxquelles ces émotions pouvaient pousser l'adversaire, ce qui donnait souvent un aspect incompréhensible à leurs actions. Elles n'étaient pas moins intelligentes qu'avant leur transformation, ni moins efficaces au combat. Au contraire, elles agissaient avec une volonté d'assouvir sans délai leurs envies qui n'appartiennent qu'aux animaux. Le cheval volé la veille pouvait finir dévoré le lendemain, simplement parce que la faim était à ce moment-là une sensation plus immédiate que le confort de se faire transporter. Les forgisés ne coopéraient pas non plus à la bataille. Il n'existait chez eux nulle loyauté de groupe. Ils pouvaient aussi bien s'attaquer mutuellement qu'assaillir un ennemi commun. Ils se déplaçaient ensemble, combattaient ensemble, mais sans effort concerté. Pourtant, ils n'en étaient pas moins astucieux dans la violence, et sans le moindre scrupule pour s'approprier ce qu'ils convoitaient. Je savais tout cela. Aussi, ne fus-je pas étonné quand les deux hommes passèrent près de moi pour s'en prendre d'abord aux moindres adversaires. Ce qui me surprit, en revanche, fut le lâche soulagement que j'éprouvais. Il me paralysa comme dans mes rêves, et je laissai les deux forgisés passer sans réagir. Miel et Fifre répondirent comme deux ménestrelles furieuses et terrifiées armées de bâtons. Elles n'avaient aucune connaissance de ce genre de combat. Pas même l'expérience de la défense en équipe qui permet d'éviter de se blesser mutuellement. Elles avaient été formées à la musique, pas à la guerre. Josh se tenait entre elles impuissant, son bâton à la main mais incapable de s'en servir sans risquer de toucher Miel ou Fifre. Ses traits se tordaient de rage. J'aurais pu en profiter pour me sauver, saisir mon baluchon au vol et m'en aller sans un regard derrière moi. Les forgisés ne m'auraient pas poursuivi, ils se satisfaisaient de la proie qui opposait le moins de résistance. Mais non, un vestige de courage ou d'orgueil survivait en moi. Je m'attaquai au plus petit des deux hommes, bien qu'il parût plus doué au gourdin que son compagnon. Je laissai Miel et Fifre tenir en respect le plus grand et forçai l'autre à engager le combat avec moi. Mon premier coup le toucha en bas des jambes. Je cherchais à le blesser, ou au moins à le jeter à terre. Il poussa en effet un rugissement de douleur en se retournant vers moi, mais l'impact ne parut pas l'avoir ralenti. C'est là un autre détail que j'avais noté chez les forgisés. La douleur semblait moins les affecter que les hommes normaux. Pour ma part, quand on m'avait battu dans les cachots, une grande partie de mon désespoir venait de l'horreur que m'inspiraient les dommages infligés à mon corps. Et c'est avec étonnement que je m'étais aperçu de l'attachement émotionnel que j'avais pour ma propre chair. Mon profond désir de le maintenir en bon état allait bien au-delà de la simple envie d'éviter la souffrance. On tire fierté de son physique, et quand il est abîmé, ce n'est plus qu'un objet matériel. Royal le savait. Il savait que chaque coup de ses gardes provoquait une peur en plus d'une meurtrissure. Allait-il me renvoyer à l'état où je me trouvais à mon retour des montagnes? Celui d'une créature valétudinaire qui tremblait après le moindre effort et redoutait les crises qui lui volaient son corps et son esprit. Cette crainte me réduisait à l'impuissance autant que les coups. Les forgisés, eux, ne paraissaient pas connaître cette peur. Peut-être, en perdant leur sensibilité, perdaient-ils aussi toute affection envers leur corps. Mon adversaire se retourna d'un bloc et me porta un coup qui résonna dans mes épaules quand je le bloquais de mon bâton. « Petite douleur », me souffla mon organisme, et il se tint à l'affût d'autres sensations. L'homme me frappa de nouveau, et je bloquai encore une fois son attaque. Maintenant que le combat était engagé, je n'avais plus de moyen de m'enfuir sans courir de risque. Il maniait bien le gourdin. Il avait sans doute été guerrier, entraîné à la hache. Je reconnaissais les frappes, et je les parais ou les esquivais toutes. Mais j'avais trop peur de lui pour l'attaquer. Je redoutais trop le coup qui risquait de franchir ma garde si je ne restais pas constamment sur la défensive. Je cédais si facilement du terrain qu'il jeta un regard derrière, en se disant peut-être qu'il pouvait me planter là pour s'en prendre aux femmes. J'osais une timide réplique à l'un de ses coups, c'est à peine s'il broncha. Il ne se fatiguait pas. et ne me laissait pas assez de champ pour manier mon bâton, plus long que son gourdin. Au contraire de moi, les cris des ménestrels qui s'évertuaient à se défendre ne le distrayaient pas. Dans les bois, j'entendis des jurons étouffés et de faibles grondements. Œil de Nuit s'était discrètement approché du troisième homme et s'était jeté sur lui dans l'espoir de lui trancher un mollet. Il avait échoué, mais il tournait à présent autour de lui en restant hors de portée de son épée.
« Je ne sais pas si j'arriverai à franchir le barrage de son arme, mais je pense pouvoir le retenir ici. Il n'ose pas me tourner le dos pour aller vous attaquer. »«
Fais attention à toi !» Ce fut tout ce que j'eus le temps de lui transmettre, car l'homme au gourdin exigeait toute mon attention. Les coups pleuvaient sur moi, et je m'aperçus bientôt qu'il avait accru ses efforts, qu'il maniait son arme avec toujours plus de vigueur. Il ne craignait plus de riposte de ma part, et mettait toute sa force à abattre ma défense. Chaque impact sur mon bâton envoyait un choc en écho dans mes épaules, qui réveillait d'anciennes douleurs et des blessures pourtant guéries et que j'avais presque oubliées. Ma résistance au combat n'était plus ce qu'elle avait été. La chasse et la marche à pied n'endurcissent pas le corps et ne développent pas les muscles comme des journées entières à l'aviron. Le doute minait ma concentration. Je ne me croyais pas de taille, et je redoutais la souffrance à venir, sans voir de moyen d'y échapper. Le désir d'éviter la blessure n'équivaut pas à la volonté de vaincre. Je cherchais sans cesse à m'écarter de mon adversaire, à gagner du champ pour mon bâton, mais il me serrait sans relâche. Du coin de l'œil, j'aperçus les ménestrels. Josh se tenait en plein milieu de la route, le bâton prêt à servir, mais la bataille s'était éloignée de lui. Miel reculait en boitant devant l'homme qui la poursuivait. Elle s'efforçait de parer les coups de gourdin, tandis que Fifre donnait sur les épaules du forgisé des coups inefficaces de son bâton trop mince. La tête rentrée dans les épaules, il ne s'occupait que de Miel, déjà blessé. Ce spectacle éveilla quelque chose en moi.
« Fifre, tapez-lui dans les jambes !»
criai-je. Puis je revins à ma situation personnelle, alors que l'arme de mon adversaire me frôlait l'épaule. Je lui portais quelques coups rapides, mais sans puissance et bondis en arrière. Une épée m'entailla l'épaule et m'érafla la cage thoracique. Je poussai un cri de stupéfaction et faillis en laisser tomber mon bâton avant de comprendre que ce n'était pas moi qui étais blessé. Je sentis autant que j'entendis le glapissement de douleur d'Œil de Nuit, puis il y eut l'impact d'une botte sur mon crâne. Désorienté, acculé,
« Aide-moi !»
D'autres souvenirs, plus profonds, se dissimulaient derrière celui des séances de coups que m'avaient infligées les gardes de Royal. Bien des années plus tôt, j'avais senti la taillade d'un couteau et le choc d'une botte sur une chair autre que la mienne. Un terrier avec qui je m'étais lié par le vif, Martel, pas encore adulte, s'était battu dans le noir contre des hommes venus attaquer Burik en mon absence. Il était mort peu après de ses blessures, avant même que je puisse arriver jusqu'à lui. Je découvris soudain qu'il existait une menace qui m'incitait davantage à réagir que celle contre ma propre vie. La peur que je ressentais pour moi-même se réduisit à néant devant ma terreur de perdre Œil de Nuit. Je fis ce que je savais devoir faire. Je modifiai mon équilibre, m'avançai et laissai le gourdin s'abattre sur mon épaule pour mieux me placer à portée de l'adversaire. Le coup m'engourdit le bras et, l'espace d'un instant, ma main devint insensible. Espérant qu'elle était toujours là, je raccourcis ma prise sur mon bâton et le relevai brutalement contre le menton de l'homme. Rien ne l'avait préparé à mon brusque changement de tactique. Sa tête partit en arrière et sa gorge s'offrit à moi. J'enfonçai violemment l'extrémité de mon arme dans le creux à la base de son cou. Je sentis les petits os céder. Dans un soudain hoquet de souffrance, il cracha du sang. Je reculai vivement, modifiai ma prise et abattis l'autre extrémité de mon bâton sur son crâne. Il s'écroula et je me ruai dans les bois. Des grondements et des grognements me conduisirent au loup. Réduit aux abois, il tenait sa patte gauche relevée contre son poitrail. Une pellicule de sang lui couvrait l'épaule et formait des joyaux rouges sur le jarre de tout son flanc. Il avait reculé jusqu'au cœur d'un éperoncier, dont les épines acérées derrière lesquelles il avait cherché refuge l'enfermaient désormais et l'empêchaient de s'échapper. Il s'y était enfoncé le plus loin possible pour éviter les coups de son adversaire, et je percevais les multiples blessures dont il souffrait aux pattes. Cependant, les épines qui le perçaient maintenaient son assaillant à distance, et les sarments élastiques absorbaient la plupart des coups d'épée que l'homme donnait pour tailler dans le roncier et enfin atteindre Œil de Nuit. À ma vue, le loup reprit courage et se tourna brusquement face au forgisé, dans une violente explosion de grondements. L'homme ramena son épée en arrière afin d'empaler mon compagnon. Le bout de mon bâton n'était pas taillé en pointe, mais avec un cri de rage, je l'enfonçai si brutalement dans le dos de l'homme qu'il transperça la chair jusqu'au poumon. De la bouche de ma victime jaillit un rugissement de rage mêlé de sang. Elle voulut se retourner, mais je tenais toujours mon bâton. Je poussai de toutes mes forces, et l'homme partit en trébuchant vers le roncier. Ses mains tendues ne trouvèrent aucun point d'appui en dehors des tiges épineuses, et je le maintins dans les ronces de tout mon poids, tandis qu'Œil de Nuit enhardi bondissait sur son dos. Ses mâchoires se refermèrent sur sa nuque épaisse, et il secoua l'homme jusqu'à ce que le sang nous éclabousse tous deux. Les hurlements étranglés du forgisé se réduisirent peu à peu à un faible gargouillis. Les ménestrels m'étaient complètement sortis de l'esprit lorsqu'un grand cri d'angoisse me les remit en mémoire. Je ramassai l'épée de notre adversaire et regagnai la route en courant, laissant Œil de Nuit se coucher sur le flanc et commencer à lécher sa blessure. Comme je sortais du bois, un affreux spectacle s'offrit à moi. Le forgisé s'était jeté sur Miel qui se tordait à terre et lui arrachait ses vêtements, pendant que Fifre, à genoux sur la route, se tenait un bras en hurlant. Josh, échevelé, couvert de poussière, s'était remis sur pied et se dirigeait vers elle en se guidant sur ses cris. En un clin d'œil, je fus parmi eux. D'un coup de pied, je délogeai l'homme assis sur Miel, puis tenant mon épée à deux mains, je la lui enfonçai dans la poitrine. Il se débattit violemment, rua, et me saisit par les vêtements, mais j'appuyai sur l'arme pour l'enfoncer toujours davantage. À lutter contre le métal qui l'immobilisait, il ne faisait qu'agrandir la blessure. Il me maudissait à grands cris inarticulés qui se transformèrent peu à peu en hoquets haletants, ponctués de gouttelettes de sang. Ses mains saisirent mon mollet droit dans l'espoir de me faire trébucher. Je me contentais d'appuyer plus fort sur l'épée. J'aurais voulu retirer mon arme et le tuer rapidement, mais il était si vigoureux que je n'osais pas risquer de le libérer. Pour finir, Miel l'acheva d'un coup de bâton qui lui défonça le visage. La soudaine immobilité de l'homme fut un soulagement autant pour moi que pour lui. Je trouvai la force d'extraire l'épée de sa poitrine. Puis je reculai, en chancelant, et m'assis sans douceur sur la route. Ma vue se mit à s'assombrir et à s'éclaircir tour à tour. Les cris de douleur de Fifre auraient pu être ceux lointains de Mouette. Soudain, il y eut excès de tout, et je me trouvais partout à la fois. Dans les bois, je me léchais l'épaule en écartant de la langue mon épaisse fourrure pour sonder délicatement l'entaille, tout en l'enduisant de salive. Et pourtant, j'étais assis au soleil, avec dans le nez l'odeur de la terre, du sang et des excréments de l'homme dont les entrailles se vidaient. J'avais la perception de chaque coup donné et reçu. Je sentais à la fois l'effort qu'avait demandé de manier le gourdin et les dégâts qu'il avait infligés. La violence avec laquelle j'avais tué prit soudain une nouvelle connotation. Je savais l'effet de la douleur que j'avais donnée. Je savais ce qu'ils avaient ressenti. Ces hommes qui s'étaient débattus sans espoir, sans autre possibilité que de mourir pour échapper à une souffrance accrue. Mon esprit oscillait entre les deux extrêmes du tueur et de la victime. J'étais les deux. Et j'étais seul, plus seul que je ne l'avais jamais été. Autrefois, en de telles circonstances, il y avait toujours eu quelqu'un auprès de moi, compagnon de bord à la fin des batailles. Burik, venu me rapetasser et me ramener à la maison, et un foyer qui m'attendait. Avec patience, s'affairant autour de moi, ou Ambre et Vérité m'enjoignant de faire plus attention à moi, et puis Molly qui arrivait, avec le silence et l'obscurité pour me toucher doucement. Cette fois pourtant, le combat était fini et j'étais vivant. Mais nul ne s'en souciait, à part le loup. J'avais beau l'aimer, je m'apercevais que j'aspirais aussi à un contact humain. La séparation d'avec ceux qui m'avaient porté de l'affection était insupportable. Si j'avais été un vrai loup, j'aurais levé le nez au ciel et poussé un long hurlement. En l'occurrence, je tendis mon esprit d'une façon que je ne puis décrire, qui n'était ni le vif, ni l'art, mais un mélange invraisemblable des deux. Une volonté effrayante de trouver quelqu'un, n'importe où, qui attache de l'importance à me savoir vivant. Je perçus presque une réponse. Quelque part, Burik leva-t-il la tête pour parcourir des yeux le champ dans lequel il travaillait ? Flaira-t-il un instant l'odeur du sang et de la poussière, au lieu du riche parfum de la terre qu'il retournait pour en arracher les tubercules ? Molly interrompit-elle sa lessive pour se redresser, les mains sur ses reins douloureux, et promener son regard autour d'elle en s'étonnant d'éprouver soudain un sentiment de désolation ? Tiraillais-je la conscience fatiguée de vérité ? détournai-je un instant l'attention de patience des plantes qu'elle triait pour les mettre à sécher sur des plateaux. Fis-je froncer les sourcils à humbre, tandis qu'il rangeait un manuscrit. Tel un moucheron contre une vitre, je me cognais, et me cognais encore contre leur conscience. Leur affection qui allait tellement de soi me manquait à présent cruellement. Je crus un instant les atteindre, mais je retombai en moi-même, épuisé, assis tout seul sur la route, maculé du sang de trois hommes. Un coup de pied fit voler de la poussière sur moi. Je levai les yeux. Miel ne fut tout d'abord qu'une silhouette noire sur le ciel du couchant, puis je battis des paupières et je distinguai son expression de mépris et de rage. Ses vêtements étaient en lambeaux. Ses cheveux pendaient sur son visage.
« Vous avez fui !» cracha-t-elle.
Le dégoût que lui inspirait ma lâcheté était presque palpable.
« Vous avez fui !» Vous les avez laissés casser le bras de Fifre, assommer mon père et essayer de me violer. Mais quel homme êtes-vous donc? Quel homme est capable de faire ce que vous avez fait?
Il y avait mille réponses. Et il n'y en avait aucune. L'abîme qui s'était creusé en moi m'assurait que parler ne résoudrait rien. Je me relevai sans rien dire, et ses yeux agrandis me suivirent tandis que je me dirigeais vers mon baluchon. J'avais l'impression que je l'avais laissé tomber des heures plus tôt. Je le ramassai et revins vers l'endroit où Josh, assis par terre, essayait de consoler Fifre. Miel, toujours pragmatique, avait ouvert leur sac. La harpe de Josh n'était plus que bout de bois brisé et cordes emmêlées. Fifre ne rejouerait de la flûte qu'une fois son bras guéri, pas avant plusieurs semaines. Il n'y avait pas à revenir dessus. La situation étant ce qu'elle était, je fis ce que je pouvais. C'est-à-dire rien. À part allumer un feu au bord de la route, aller chercher de l'eau au fleuve et la mettre à bouillir. Je choisis des herbes pour calmer Fifre et apaiser la douleur de sa fracture, puis je mis la main sur des branches droites que j'écarris grossièrement pour en faire des attelles. Et que se passait-il derrière moi, dans les bois à flanc de colline?
Ça fait mal, mon frère. Mais ta blessure n'est pas profonde. Néanmoins, elle se rouvre dès que j'essaie de marcher. Et je suis couvert d'épines comme une charogne de mouche.
Je viens tout de suite te les enlever.
Non, je peux m'en charger. Occupe-toi des autres.
Il se tut un instant.
Nous aurions dû nous sauver, mon frère.
Je sais. Pourquoi me fut-il si difficile d'aller trouver Miel pour lui demander si elle avait du tissu à déchirer afin d'attacher les éclisses sur le bras de Fifre? Elle dédaigna de me répondre, mais Josh me tendit sans un mot le tissu doux qui enveloppait naguère sa harpe. Miel me méprisait. Josh paraissait encore sous le choc, et Fifre était si accaparée par sa propre douleur qu'elle faisait à peine attention à moi. Pourtant, j'ignore comment, je parvins à les convaincre de se rapprocher du feu. J'y conduisis Fifre, un bras autour de sa taille, l'autre soutenant son bras blessé. Je la fis asseoir, puis lui donnai la tisane que j'avais préparée. Je peux remettre l'os en place et le fixer par des attelles, dis-je en m'adressant plus à Josh qu'à sa fille. Je l'ai déjà pratiqué sur des hommes blessés au combat, mais je ne prétends pas être guérisseur. À la prochaine ville, il faudra peut-être refaire l'opération. Il hocha lentement la tête. Il savait comme moi que nous n'avions pas vraiment le choix. Il prit donc position derrière Fifre, et lui tint les épaules, tandis que Miel empoignait le haut du bras de sa sœur. Je serrai les dents pour repousser la douleur de Fifre, et tirai fermement sur son avant-bras. Elle cria, naturellement, car une simple tisane ne pouvait empêcher une souffrance de cette sorte. Mais elle se retint néanmoins de se débattre. Les larmes ruisselaient sur ses joues, et elle respirait à coups hachés, tandis que je plaçais et fixais les attelles. Je lui montrai ensuite comment glisser son bras dans l'échancrure de sa tunique pour que le vêtement en supporte le poids et lui évite de trop bouger. Après quoi, je lui fis boire une nouvelle chope de tisane et allai m'occuper de Josh. Il avait reçu un coup sur la tête qui l'avait laissé un moment étourdi, sans pourtant l'assommer. Une bosse s'enflait à l'endroit du choc et il fit la grimace quand je la palpais. Mais la peau n'était pas fendue. Je la nettoyai à l'eau fraîche, puis je dis au harpiste que la tisane pouvait à lui aussi être bénéfique. Il me remercia et j'en ressentis curieusement de la honte. Enfin, je me tournai vers Miel, qui m'observait avec des yeux de chat de l'autre côté du petit feu. « Êtes-vous blessé ?» lui demandai-je à mi-voix. « J'ai une bosse au menton, de la taille d'une prune, là où il m'a frappé, et j'ai des griffures au cou et sur les seins. Mais je peux m'occuper seul de mes blessures, merci, Cobb. De toute façon, ce n'est pas grâce à vous que je suis encore en vie. » « Miel !» Josh avait prononcé son nom d'un ton dangereusement bas. On y sentait autant de fatigue que de colère.
« Il a fui, père. Il a tué son homme. Et puis il s'est sauvé. S'il était resté pour nous aider, nous n'en serions pas là. Fifre, le bras cassé et toi, ta harpe en morceaux, il a fui. Mais il est revenu. Mieux vaut ne pas songer à ce qui serait arrivé dans le cas contraire. » « Nous avons peut-être quelques blessures, mais tu peux quand même le remercier d'être toujours en vie. »« Je n'ai à le remercier de rien, » rétorqua-t-elle d'un ton acerbe. « S'il avait eu un instant de courage, il aurait pu sauver nos moyens d'existence. Mais regarde-nous, maintenant, un harpiste sans harpe et une flûtiste incapable de lever le bras pour jouer de son instrument. »
Je me levai pour m'éloigner. J'étais soudain trop fatigué pour écouter ses doléances et beaucoup trop découragé pour m'expliquer. Je traînais les deux cadavres sur le bord de la route et les laissais dans l'herbe le long du fleuve. Puis, dans le jour décroissant, je m'enfonçais dans le bois à la recherche d'œil de nuit. Il s'était déjà occupé de ses blessures mieux que je n'aurais pu le faire. Je passai mes doigts dans sa fourrure pour en ôter épines et brindilles de ronces et je m'assis près de lui un moment. Il se coucha et posa la tête sur mes genoux pendant que je lui grattais les oreilles. Toute autre forme de communication était inutile. Enfin, je me levai, trouvai le troisième corps, le pris sous les aisselles et allai le placer à côté des deux autres. Sans remords, je fouillai leurs poches et leurs bourses. Deux des hommes n'avaient sur eux qu'une poignée de piécettes, mais celui à l'épée possédait 12 pièces d'argent. Je m'emparai de sa bourse et y ajoutai les piécettes. Je récupérai aussi sa vieille ceinture et son fourreau. Et je ramassai l'épée sur la route. Pour finir, je travaillai jusqu'à la nuit noire à entasser des pierres sur les corps. Quand j'en eus terminé, je descendis au bord du fleuve où je me lavais les mains et les bras et m'aspergeai le visage. J'ôtai ma chemise, la trempai dans l'eau pour en faire partir les traces de sang, puis la remis froide et mouillée. L'espace d'un instant, le froid calma les élancements de mes ecchymoses, mais je sentis bientôt mes muscles se raidir. Je retournai auprès du petit feu dont les flammes éclairaient à présent les visages qui l'entouraient. Là, je pris la main de Josh et y déposai la bourse. « Ceci vous aidera peut-être en attendant de remplacer votre harpe, » lui dis-je. « L'argent des morts pour apaiser votre conscience ?» grinça Miel. Ma patience, déjà effilochée, se déchira. « Dites-vous qu'ils sont toujours vivants si ça vous chante. » « Car selon la loi de Serre, ils auraient dû au moins vous dédommager, » fis-je. « Et si ça ne vous convient pas non plus, vous pouvez jeter l'argent au fleuve. Ça m'est parfaitement égal. » Après quoi, je m'appliquai à faire encore moins attention à elle qu'elle à moi. Et malgré mes contusions et mes élancements, j'essayai la ceinture à laquelle pendait le fourreau. Œil de nuit ne s'était pas trompé. L'ancien propriétaire était beaucoup plus corpulent que moi. Je posai le cuir sur un morceau de bois, et avec mon couteau, j'y pratiquai un nouveau trou. Cela fait, je me redressai et attachai la ceinture à ma taille. Retrouver le poids d'une épée à mon côté me réconforta. Je la dégainai pour l'examiner à la lumière du feu. Sans rien d'exceptionnel, elle n'en était pas moins fonctionnelle et solide.
« Où avez-vous trouvé ça ?»
demanda Fifre. Elle parlait d'une voix mal posée. « Sur le troisième homme dans les bois. » répondis-je laconiquement. Je rengainai l'arme.
« Qu'est-ce que c'est ?»
fit Josh.
« Une épée, » dit Fifre.
Josh tourna ses yeux laiteux vers moi.
« Il y avait un autre homme avec une épée dans les bois ?»«
Oui. »«
Et vous la lui avez prise après l'avoir tuée ?»«
Oui. » Avec un petit toussotement, il secoua la tête.
« Quand nous nous sommes serrés la main, j'ai bien senti que vous n'aviez pas la poigne d'un scribe. La plume ne laisse pas des cales comme les vôtres et ne muscle pas de cette façon l'avant-bras. Tu vois,
miel. Il ne s'est pas enfui. Il est simplement allé.
Il aurait mieux fait de tuer d'abord celui qui nous attaquait.
Le coupa miel, entêté. Je défis mon baluchon et déroulai ma couverture, puis m'y allongeai. J'avais faim, mais je n'y pouvais rien. J'étais fatigué aussi, et ça, je pouvais y remédier.
« Vous allez dormir ?» demanda Fifre.
Son visage reflétait toute l'inquiétude que l'influence de la tisane lui permettait d'exprimer.
« Oui. »« Et si d'autres forgisés arrivent ?»
fit-elle d'une voix tendue. Miel n'aura qu'à les tuer dans l'ordre qu'elle estime le plus judicieux, répondis-je d'un ton mordant. Je me tournai sur ma couverture jusqu'à ce que mon épée soit à portée de main et facile à dégainer. Puis, je fermai les yeux. J'entendis Miel se lever lentement et disposer les couvertures pour son père et sa sœur.
« Cobb !»
murmura Josh.
« Avez-vous gardé un peu d'argent pour vous ?»«
Je ne pense pas en avoir besoin dans l'avenir. » répondis-je sur le même ton. Je ne lui expliquais pas que je ne pensais n'avoir guère à fréquenter d'humains. Je ne voulais plus avoir à m'expliquer, devant quiconque. Qu'on me comprenne ou non m'était égal. Les yeux fermés, je cherchais œil de nuit et le touchais. Comme moi, il avait faim, mais préférait se reposer.
Demain soir, je serai de nouveau libre de chasser avec toi, lui promis-je.
Il poussa un soupir de satisfaction. Il n'était pas très loin. Mon feu faisait une étincelle entre les arbres, en dessous de lui. Il posa son museau sur ses pattes avant. J'étais plus fatigué que je n'en avais eu conscience, car bientôt mes pensées se mirent à flotter et à devenir indistinctes. Je me laissais aller et m'éloignais des douleurs dont mon corps était perclus.
Molly, songeai-je avec nostalgie. Molly.
Mais je ne la trouvais pas. Quelque part, Burik dormait sur une paillasse devant un âtre. Je le vis et j'eus presque l'impression de l'artiser, mais je ne pus maintenir la vision. Le feu éclairait les méplats de son visage. Il avait maigri et les heures de travail au champ avaient donné à sa peau une teinte brun sombre. Je me détournai lentement de lui. L'arc clapotait contre moi, mais je n'arrivais pas à le maîtriser. Quand mes rêves effleurèrent patience, je vis avec atterrement qu'elle se trouvait dans un appartement privé, en compagnie du seigneur Brillant. Il avait l'expression d'un animal aux abois. Une jeune femme était là aussi, vêtue d'une robe ravissante et l'air aussi effaré que lui de l'intrusion de patience. Celle-ci, armée d'une carte, discourait tout en poussant de côté un plateau de friandises et des coupes de vin pour dérouler son manuscrit sur la table.
Je me suis rendu compte que vous n'étiez ni stupide ni lâche, seigneur Brillant. Je dois donc vous supposer ignorant, et je compte faire en sorte que votre instruction ne soit plus négligée. Comme cette carte du prince Vérité vous le démontrera, si vous ne réagissez pas promptement, toute la côte de Serre sera bientôt à la merci des pirates rouges, et ils ne connaissent pas la merci.
Elle leva de la carte ses yeux noisettes, que je connaissais bien, et regarda son interlocuteur, comme elle m'avait souvent regardé quand elle attendait que je lui obéisse. J'eus presque pitié de lui. Je perdis la faible prise que j'avais sur la scène, et telle une feuille au vent, je m'éloignai d'eux en tourbillonnant. M'élevais-je ou m'enfonçais-je? Je ne sais pas, mais je ne me sentais plus retenu à mon corps que par un fil ténu. Je tournoyais dans un courant qui m'attirait, qui m'encourageait à me laisser aller. Quelque part, un loup poussa un gémissement d'inquiétude. Les doigts fantômes me tiraillaient comme s'ils désiraient mon attention. «
Fitz, sois prudent, retourne-t'en. »
Vérité. Mais son contact n'avait pas plus de vigueur qu'un souffle de vent. Malgré l'effort qu'il lui en coûtait, je le savais. Quelque chose s'interposait entre nous, une brume froide, souple, et pourtant résistante, dans laquelle je m'empêtrais comme dans un roncier. J'essayais de revenir à moi, de trouver en moi-même une peur suffisante pour m'enfuir vers le refuge de mon corps, mais j'avais l'impression d'être pris dans un rêve dont je ne parvenais pas à m'éveiller. J'étais incapable de m'en extraire, incapable d'en trouver la volonté.
Une bouffée puante de magie de chien dans l'air, et voyez sur qui je tombe.
Les griffes de Guillaume me crochèrent et m'attirèrent tout contre lui.
Salut, bâtard!
Sa profonde satisfaction fit ressurgir en moi toutes les nuances de mes terreurs passées. Je sentis son sourire cynique. Mort ni l'un ni l'autre, ni le bâtard et sa magie perverse, ni vérité le prétendant. Royal va être fort chagrin de constater qu'il n'a pas aussi bien réussi qu'il le croyait. Mais cette fois, je vais régler la question une fois pour toutes et à ma façon. Je perçus son insidieuse exploration de mes défenses, plus intime qu'un baiser. Comme s'il pétrissait la chair d'une putain, je le sentis me palper partout à la recherche de faiblesse. Aussi inerte qu'un lapin dans son étreinte, je n'attendais plus que la vive torsion du cou qui mettrait fin à mon existence. Qu'il avait gagné en puissance et en ruse.
Vérité,
gémis-je, mais mon roi ne pouvait ni m'entendre, ni m'aider. Guillaume soupesa. À quoi te sert cette force que tu n'as jamais appris à dominer?
À rien.
Et à moi, hein, à moi, elle donnera des ailes et des serres. Tu vas me rendre assez fort pour découvrir vérité, si bien caché qu'il soit. Soudain, je me mis à perdre mon énergie comme une outre percée. J'ignorais comment il avait pu pénétrer mes défenses et comment le repousser. Avidement, il attira mon esprit contre le sien et s'y colla comme une sangsue. C'était ainsi que Justin et Sereine avaient tué le roi subtil, et il s'était éteint brusquement, comme une bulle de savon qui éclate. Je ne trouvais ni la volonté ni la force de me battre, tandis que Guillot abattait l'une après l'autre les murailles qui nous séparaient. Ses pensées étrangères pressant sur mon esprit, il entreprit de fouiller dans mes secrets, sans cesser d'aspirer ma substance. Mais en moi, un loup l'attendait. « Mon frère !» dit Œil de Nuit avant de se ruer sur lui tout croc dehors. Quelque part dans l'immensité, Guillot poussa un hurlement d'horreur et de désarroi, si fort qu'il fut dans l'art. Il ne connaissait rien au vif, et il était aussi désarmé devant l'attaque d'Œil de Nuit que je l'avais été devant la sienne. Une fois déjà, durant un assaut de Justin et Sereine contre moi, Œil de Nuit avait riposté. Justin s'était écroulé comme si un loup s'en était pris à lui physiquement. Il avait perdu toute concentration et toute maîtrise de son art, ce qui m'avait permis de me dégager de son emprise. Je ne voyais pas ce qui arrivait à Guillot, mais je sentais les claquements de mâchoire d'Œil de Nuit, et j'étais ballotté par la violente horreur que ressentait Guillot. Enfin, il s'enfuit en rompant si brusquement le lien d'art entre nous que l'espace d'un instant, je ne sus plus qui j'étais. Puis, je me retrouvais dans mon corps, les yeux grands ouverts. Je me redressais sur ma couverture, le dos ruisselant de sueur, et dressais autour de moi toutes les murailles que je me rappelais comment ériger.
« Cobb ?»
fit Josh d'un ton vaguement inquiet, et je le vis se lever sur un coude, l'air endormi. Miel, qui montait la garde, me dévisageait, les yeux écarquillés. Je refoulais un sanglot hoquetant.
« Un cauchemar, »
dis-je d'une voix rauque.
« Rien qu'un cauchemar. »
Je me levai en chancelant, épouvanté par ma propre faiblesse. Le monde tournoyait autour de moi, et c'est à peine si je tenais debout. La terreur que m'inspirait mon épuisement m'aiguillonna. Je pris ma petite casserole et me dirigeai vers le fleuve. De la tisane d'écorce elfique, me promis-je, en espérant qu'elle serait assez forte. Je fis un large détour pour éviter les tas de pierres qui dissimulaient les corps déforgisés. Avant que je parvienne sur la berge, Œil de Nuit clopinait à mes côtés sur trois pattes. Je lâchai ma casserole et me laissai tomber près de lui. Je le pris dans mes bras en faisant attention à son épaule blessée, et j'enfonçai mon visage dans sa fourrure. Si tu savais comme j'ai eu peur, j'ai failli mourir.
Je comprends maintenant pourquoi nous devons les tuer,
déclara-t-il calmement.
Si nous ne les tuons pas, ils ne nous laisseront jamais en paix. Nous devons les poursuivre jusque dans leur tanière et les tuer tous.
C'était le seul réconfort qu'il pouvait m'offrir.